مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله طيب Donc, par la grâce d'Allah Ta'ala, on se retrouve ce matin pour un cours sur notre matière qui est le comportement, donc on est toujours dans l'explication de l'ouvrage de Cheikh Al-Usaymin, le petit ouvrage Makarim al-Akhlaq, les nobles caractères, les nobles comportements, les nobles caractères. On est arrivé à la partie où Cheikh Al-Usaymin, il nous parle du comportement envers les autres, envers autrui. Avant cela, on a parlé du comportement le plus important, qui est le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose de vaste, puisque l'unicité d'Allah, la croyance, c'est quelque chose de vaste. Et le tawhid fait partie, comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le tawhid fait partie du bon comportement. Avoir un bon tawhid envers Allah subhanahu wa ta'ala, bien pratiquer le tawhid fait partie du bon comportement. Si on est un associateur et qu'on fait du polythéisme, c'est un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc aujourd'hui, on va continuer la parole concernant le comportement avec autrui, avec les autres. On avait commencé quelque chose de très important dans le cours précédent. Dans le cours précédent, on avait commencé quelque chose de très important. C'est qu'on avait commencé, hein. Cheikh Al-Usaymin nous dit alors il nous cite les vertus du bon comportement avec les autres, les vertus du bon comportement avec les autres. La première, s'abstenir de faire le mal. On l'a expliqué. Alors, rappelez-vous que concernant le comportement, il y a trois vertus, c'est-à-dire trois choses pour concrétiser le bon comportement, le meilleur comportement. Il y a trois choses. La première, s'abstenir de faire du mal. Comme vous le savez, si on fait du mal, et le mal, c'est quelque chose de vaste, hein, on ne peut pas dire qu'on a un bon comportement. On dira que la personne a un mauvais comportement. Ça, c'est la première vertu. La deuxième, on a dit la générosité. La générosité, naham. On va encore en parler, inshallah ou ta'ala, directement aujourd'hui. Et la troisième, très importante, avoir le visage souriant. Taïb. Alors avant de commencer, notre troisième fondement très important sur le comportement, le fait de sourire, avoir, c'est pas juste sourire, vous allez voir. C'est d'avoir un visage souriant, resplendissant. Alors avant de commencer ce troisième point très important, il faut savoir que le comportement avec les autres, c'est primordial. Le bon comportement avec les autres, c'est primordial. À une époque aujourd'hui où les gens, énormément de gens, ont délaissé le bon comportement avec les autres. Avec les autres. Alors, il se peut qu'on nous dise, oui, mais on leur fait pas de bien, mais on leur fait pas de mal. On ne fait pas de bien aux autres, mais on ne leur fait pas de mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas un bon comportement, mais on n'a pas un mauvais comportement. Alors, j'attire votre attention ici sur justement, encore une fois de plus, un stratagème du shaitan. C'est que ça, c'est pas la société musulmane qui pense comme ça. Ça, c'est pas tout ce que nous ont enseigné Allah, le Très-Haut et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne fais ni du bien, ni du mal. Bon comportement ou pas, voilà. Alors ça rentre dans l'imitation et c'est une preuve qu'on a vraiment un grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt la société occidentale, voire la société mécréante ou les associateurs ou les mécréants ou autres en général, ils ont déteint sur la société musulmane. Parce que ce n'est pas l'éducation qu'a donné le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, que d'être insouciant envers l'autre. De ne pas se soucier de l'autre. Ça, c'est quelle société qui fait ça? C'est pas la société musulmane, où chacun est pris par je ne sais quoi, que ce soit le travail ou autre, n'importe, hein, le shaitan, il vous trouvera de quoi vous occuper. Plutôt, un terme plus adéquat, il vous trouvera de quoi vous distraire, parce que occuper, c'est pas forcément blâmable. Mais la distraction, être distrait, là, ça peut être blâmable. Si tu préfères faire un match de foot qu'apprendre ta religion ou aller voir un match de foot, c'est un exemple, hein. On n'a pas dit que le foot c'est maudit ou quoi que ce soit. Wallahu a'lam. Ça, c'est un autre sujet. Mais, ça dépendra du contexte, mais on dira que là, tu n'as pas donné le droit d'Allah, tu n'as pas donné le droit de ce pourquoi tu as été créé, etc. Tu as été distrait. Donc là, c'est blâmable. Alors aujourd'hui, on est plongé dans une société de distraction qu'il n'y avait pas forcément jadis. Ne croyez pas que c'est un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard dans notre religion. Ne croyez pas que c'est un hasard où les distractions se multiplient. Jadis, les distractions étaient, tu pouvais les compter sur les doigts de la main. Les doigts de la main, les distractions. Tu pouvais les compter sur les doigts de la main. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si les distractions, elles sont de plus en plus répandues, de plus en plus subtiles, de plus en plus dangereuses, empoisonnées. Wallahi, tu peux même être un grand talibul ilm, étudiant en science, à fond dans la science, tu vas juste sur YouTube 5 minutes. Les 5 minutes, elles se transforment en 50 minutes. Si ça, c'est pas de la distraction. Comme si l'étudiant, il avait le temps. Même le musulman, quand il sait ce qui l'attend derrière, est-ce que tu as le temps de passer 50 minutes une vidéo, après t'as, avec ton doigt, tu vas vers le bas, une autre après une autre. Oh, regarde, c'est marrant. Oh, regarde ceci. Oh, regarde cela. 50 minutes, 1 heure, ils sont passés. Alors qu'il y a un châtiment de la tombe qui nous attend. Subhanallah. Peut-être c'est tout à l'heure. Wallahi, ça fait peur, hein. Des fois même, je me demande si je suis normal, hein. Tellement, je me demande si c'est pas de l'excès, tellement que ça fait peur. Tu t'imagines déjà d'être dans la tombe, les anges y viennent. Subhanallah. Et il y avait un compagnon comme ça. Il y avait un compagnon comme ça. Je me suis fait peur à moi-même, subhanallah. Adib. Il y avait un compagnon comme ça, que vous connaissez, Abu Hurairata radiallahu anhu, parce que sachez que si ça te fait rien, c'est pas normal. Si quand on te parle du châtiment de la tombe, on va tous se retrouver devant Allah, tout ça, ça te fait rien, c'est pas normal. Là, il faut faire un examen de conscience, c'est pas normal. Il y avait un compagnon que vous connaissez, Abu Hurairata radiallahu anhu. Abu Huraira, un jour, il connaissait un hadith que pas beaucoup de gens connaissaient. Donc, il a dit, je vais vous citer un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour vous faire court, à 3 reprises, hein, si je me souviens bien, c'est 3 reprises. Muhim, à plusieurs reprises, avant de mentionner le hadith des 3 premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection, c'est-à-dire 3 personnes qui ont fait de l'ostentation, un savant qui voulait qu'on dise, oui, regarde, un tel, c'est un savant, un autre qui a combattu soi-disant pour Allah, mais on lui dira, tu n'as pas combattu pour Allah, et un autre qui a fait des sadaqat, mais c'est pas pour Allah. Les 3 premiers qui seront jugés et jeté en enfer. Abu Huraira, radiallahu anhu, avant de mentionner ce hadith, il est tombé Il s'est évanoui plusieurs fois. Il s'est évanoui plusieurs fois. Tellement l'intensité. On est loin, on est loin. Nous, on est loin. Là, on va parler de tombe, châtiment de la tombe, de jugement. On va être devant Allah. Et peut-être une heure après, on va être en train de faire des monstruosités. Il faut pas. Il faut pas. Il faut vivre ça intensément. Comme si tu y étais. Ça fait partie du plus haut degré de l'islam. Il faut essayer d'atteindre ce degré. Ne pas se laisser distraire. Et vous allez voir que on est toujours dans notre cours de comportement parce que la distraction, l'insouciance, c'est là que je veux en venir au niveau du comportement. Ne te laisse pas distraire. Ça peut coûter cher de se laisser distraire. Vis les moments intensément, comme Abu Huraira, juste raconter un hadith, il est tombé dans les vapes. Il s'est évanoui dans les pommes, comme on dit. Et nous, on en parle normalement. Le châtiment de la tombe, comme si on disait, je vais aller acheter 1 kilo de pommes. Subhanallah. Dis-toi que c'est inévitable, on va passer par là. Mets bien ça dans ton cœur. Tu es là pour un test. La dunya, c'est de la pacotille. C'est de la pacotille. Excusez-moi du terme, je ne connais pas bien ce terme, mais je l'ai entendu déjà. Mais j'ai compris un peu le sens, c'est comme du bling bling. La dunya, c'est pour faire joli. Pour te distraire, bling bling. La dunya. Et nous, on s'accroche. C'est pour ça qu'il y a des gens de science aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent, même parmi les salafs, qui disent pourquoi on en est à ce niveau-là, la communauté. Parce que c'est l'amour de la dunya et on aime la dunya et on déteste la mort. Alors que normalement, c'est le contraire. On déteste la dunya et on aime la mort. Rejoindre Allah. Subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui peut nous faire avoir une prétention ou quoi que ce soit, c'est est-ce qu'on a fait ce qu'il faut, est-ce qu'on a le bon bagage lorsqu'on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Sinon, sache que voilà, hein, comme l'a dit un tel, comme l'a si bien dit un tel, on va tous y passer. Alors quand tu vas passer un test, tu as envie de bien le passer? Tu mets tout de ton côté ou tu fais comme les insouciants, les gens qui sont distraits, les laxistes? Tu vis au jour le jour. Le musulman, il vit pas au jour le jour, attention. Hein. Le musulman, il calcule tout. Il calcule ses hasanettes. Il calcule ses adorations. Le musulman, il fait partie des gens intelligents. Intelligents religieusement. Religieusement. Parce qu'il y a des gens qui ont des doctorats en ce que vous voulez. Même dans notre famille, hein, on a des gens qui ont des doctorats, mais islam, rien du tout. Il ne te sert à rien ton doctorat. Dans la tombe, toutes tes années d'études, elles t'aideront même pas à répondre. Dans la tombe. Subhanallah. Allahu Akbar. Ajib. Alors, Wallahi, ça vient du cœur ce que je vous dis. Vivez les choses avec intensité. Ne soyez pas distraits. Surtout les nouvelles générations aujourd'hui, il y a tout pour vous distraire. Il y a tout pour vous distraire. Ne sois pas distrait, ô serviteur, servante d'Allah. Tu vas le regretter. C'est dans le Coran. Alors nous, à l'Institut Tawhid, nous, depuis qu'on a connu les sciences religieuses, on a été éduqués par les grands savants. Chaque mot qu'on prononce, il y a une preuve. Chaque chose qu'on vous prononce, Il y a une preuve dans le Coran, dans la Sunna. Il n'y a rien où il n'y a pas la preuve. Je vous le dis tout de suite. Lorsqu'on te dit tu vas regretter, c'est dans le Coran. Ya laytani kuntu turaba. Oh, si j'aurais pu être que de la terre, de l'argile. Subhanallah. Combien de textes? Oh Allah, fais-moi revenir. J'ai de l'or caché. Je vais tout vous donner. Oh, si je pouvais revenir. Oh, si je n'aurais été qu'une feuille. Ça, c'est une parole d'un salaf. J'ai oublié Omar ou Abou Bakr. Si j'aurais été une feuille. Vous croyez pourquoi tout ça? Ça va faire mal. Ça va faire mal, ne t'endors pas. Je vais vous raconter un petit récit. Un petit récit. Avant de terminer cette petite introduction. Un petit récit de Cheikh Al-Uthaymin. Un jour, il y a une personne. J'ai oublié dans quelles circonstances. Hein, j'ai oublié dans quelles circonstances. Elle était cachée derrière un poteau. Mais c'est une circonstance louable, hein. C'est pas du mauvais espionnage ou quoi, mais j'ai oublié. Elle était cachée derrière un poteau et elle regardait Cheikh Al-Uthaymin qui lisait le Coran. Et Cheikh Al-Uthaymin, il s'est endormi. Écoutez bien, Cheikh Al-Uthaymin, il s'est endormi. Tout d'un coup, il a eu un sursaut, il s'est réveillé, il a dit: Oh Mohamed, ya Mohamed, an-nar, an-nar. Il s'appelait Mohamed, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. Il s'appelait Mohamed. Il s'est dit à lui-même: Oh Mohamed, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Wallahu Musta'an. Ne soyons pas insouciants, ne soyons pas distraits. Alors. Ne t'inquiète pas, Cher Bilal, je vais répondre à ta question, Inch'Allah. À propos, justement, on va le mettre en silencieux, voilà. À propos, justement, de l'insouciance, de la distraction, l'insouciance surtout. On parle là, notre sujet du cours aujourd'hui, le comportement avec les autres. Justement, le shaitan, il nous a trouvé une porte de distraction, d'insouciance, on fait même plus attention à l'autre. Au point que avoir un bon ou mauvais comportement, c'est pas notre priorité, alors que ça devrait l'être. C'est très important le comportement avec les autres. Alors, non seulement pour les autres, mais n'oublie pas, le principal, c'est toi d'abord. Ce bon comportement, il est important, primordial, c'est pour toi d'abord. Parce que ça peut être ton passeport et ton ticket pour le paradis, subhanallah. Peut-être, et j'ai vu des nosos, des textes comme ça, qu'il y a des gens. Allah Ta'ala, il va réunir deux frères. J'ai vu un hadith comme ça, faudrait que je retrouve le jour de la résurrection, qui se parlent pas, qui étaient en conflit ou quoi. Et Allah Ta'ala, il va leur dire à l'un, pardonne à ton frère, à l'autre, pardonne à ton frère. Ils vont pardonner et Allah Ta'ala, il va les faire entrer au paradis. Également, parmi ceux qui seront alladhina yadhilluhumullah yawma la dhill la dhillu illa dhill, le jour, ceux qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura que l'ombre d'Allah, parmi ces sept, il y a qui? Il y a qui? Il y a deux qui se sont rencontrés pour Allah, aimés pour Allah et séparés pour Allah, pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen, à propos de ce hadith, il dit, ces deux personnes qui se sont aimées pour Allah, il n'y a qu'une seule chose qui pourra les séparer leur amour. Les séparer, ça sera la mort. Ça, c'est pas le comportement, ça. Il y a qui pratique ça aujourd'hui? Vous savez combien de fois, est-ce que vous savez combien de fois, en plus d'une vingtaine d'années, on m'a dit « Uhibbuka fillah »« Je t'aime fillah » Combien de fois? Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont plus là. Pour la plupart, ils sont plus là. Ça veut dire quoi? Qu'il y a peut-être eu une époque où on s'est aimé pour Allah, mais ça n'a pas duré. Le bon comportement, c'est le vrai amour pour Allah, c'est que ça dure jusqu'à la mort. Subhanallah. Alors le shaitan, comme il sait que ça mène au paradis, il fait tout pour casser cet amour, ou alors se faire perdre de vue, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc attention, ne sois pas insouciant. L'islam, notre religion, depuis plus de 1400 ans, nous appelle à ne pas être insouciant et distrait concernant l'autre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on va parler d'Allah d'abord, Allah ta'ala. Allah ta'ala qui nous dit dans le Coran, et ne rejette pas celui qui te demande. Ça, c'est pas se soucier de l'autre. On nous dit pas également dans les textes, c'est rempli dans les textes du Coran et de la Sunna. Celui qui passe une journée dans l'aide de son frère, il est fisabilillah. Son frère, sa sœur également, c'est compris dedans. Combien de textes? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ne sera pas croyant celui qui ne veut pas pour son frère comme il veut pour lui. Etc. C'est rempli. Dans le Coran et dans la Sunna, c'est rempli. Donc, comme vous pouvez le constater, le sera celui qui le sera, l'ignorera celui qui l'ignorera. Notre religion nous appelle fortement, nous incite à nous préoccuper des autres. À nous préoccuper des autres. Et malheureusement, aujourd'hui, on évolue dans une société où de plus en plus on ne se préoccupe pas de l'autre, mais là où on a privilégié le fait de s'occuper entièrement de soi-même, de ne penser qu'à soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il arrivera une époque où il y aura dans ma communauté propagé l'avarice, el-bukhl, l'avarice. Donc tout ça, c'était une petite exhortation pour vous inciter au bon comportement, alors pour vous transmettre, sensibiliser concernant le bon comportement avec les autres. Taïb, comme quoi c'est, faut pas sous-estimer, c'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien du tout, surtout dans la jama'a. Surtout dans la jama'a, subhanallah al-azim wa bihamdi. Surtout dans notre jama'a. On l'a dit au tout début, lorsqu'on a ouvert cette classe, et au tout début de l'institut, lorsqu'on dit jama'a, ça veut dire on parle des gens de la sunna francophone, les salafis de France. Surtout. Dans notre jama'a, c'est devenu une maladie. Beaucoup se préoccupent d'eux-mêmes. S'ils se préoccupent des autres, c'est pour les casser ou les... Wallahu al-musta'an. Alors il faut rectifier tout ça. Il faut rectifier tout ça. C'est pas normal. Parce que nous qui nous disons suivre Le prophète et ses compagnons, on en est où dans tout ça? N'importe qui peut rigoler et se moquer de nous. Regarde, et c'est une vérité, hein, regarde comment ils se préoccupent les uns des autres. Ils se préoccupent de l'autre en faisant des mises en garde, en cassant l'autre, en calomniant l'autre. Ou alors, en ne s'occupant ni de près, ni de loin de son frère ou de sa sœur. Dans tous les cas, c'est... Wallahu al-musta'an. Dans tous les cas, c'est blâmable et... ça veut dire qu'on n'a rien compris. C'est pas dans l'absolu, attention. À chaque fois qu'on parlera d'un jugement, sachez que ce n'est pas dans l'absolu. On le dira quand c'est dans l'absolu, mais là, c'est pas dans l'absolu. Il y a des gens qui font du khair, il y a des gens qui sont des gens bien, mais qu'est-ce qui ressort en général? C'est plus ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors, avant de commencer, notre troisième fondement qui est le fait d'avoir un visage souriant, resplendissant vers les autres, faisant partie du bon comportement. On va voir la question de notre frère Cheikh Bilal. Tayyib. Alors. Assalamu alaykoum, Oustad, wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir quel est le jugement de dire « il, elle, fait ce qu'il, elle veut » quand on voit des gens sur les réseaux ou dans la vraie vie faire des choses haram ou je ne sais pas. Quel est le comportement à avoir? Alors, si vous préférez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre. Ça, c'est une réalité. Que les gens de la sunna disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre. Ça signifie que dans la croyance, écoutez bien, il y a une différence, dans la croyance, effectivement, chacun choisit. Chacun choisit ce qu'il veut. Il peut choisir la guider. La bonne guidée, le bon chemin, il peut choisir le mauvais chemin, l'égarement. Mais concernant, en règle générale, le halal, le haram, le jugement de dire, en parlant des gens qui suivent le faux, ou autre, le faux en général, ça comprend aqida, tawhid, halal, haram, tout ce que vous voulez. Ça sera une erreur, ça sera une erreur de dire chacun fait ce qu'il veut, il ou elle. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que ça contredit les textes légiférés concernant les ordres d'Allah. Chacun fait ce qu'il veut, mais Allah Ta'ala, il t'a ordonné ceci, il t'a ordonné cela, et si tu le fais pas, tu auras un péché, et tu risques l'enfer. Donc, d'un certain côté, cette expression, elle est fausse. Tu ne peux pas prétendre de dire, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que toi, tu cautionnes que des gens fassent du polythéisme parce qu'ils en ont envie. Ça contredit le Coran et la Sunna. Naam. J'espère que la réponse est claire, Cheikh Bilal. Inch'Allah ta'ala, on va commencer notre cours. Il n'y a pas de souci pour... je vois qu'il y a des frères qui ont des questions. Il n'y a pas de souci pour les questions, mais Inch'Allah ta'ala, on y répondra. Profitez-en pendant le cours. Hein. Posez vos questions. Tout en écoutant le cours, Naam, attentivement. On traitera les questions à la fin du cours, Inch'Allah Ta'ala. Si vous le voulez bien, Barakallahu Fikum, on traitera les questions à la fin du cours. J'ai aucun souci avec les questions, hein, mais Inch'Allah Ta'ala, on vous répondra à la fin du cours. Taïb, la troisième vertu, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, consiste à avoir un visage souriant. Le contraire du visage souriant est le visage renfrogné. Renfrogné. Vous savez, le visage gronchon, méchant, méprisant, ça c'est le contraire de l'islam. Ça c'est le contraire de l'islam. Alors on doit se dire dans un premier temps, lorsqu'on écoute ça, ben subhanallah, pourtant il y en a énormément des musulmans avec des visages de gronchon, renfrogné. Naham. Il faut rectifier ça, inshallah ta'ala. Il faut rectifier ça. Les gens qui transportent la lumière avec eux, les gens qui transportent la lumière avec eux, ils ont un visage souriant, tel que quand tu les vois, tu les aimes. Tel que quand tu les vois, normalement, tu les aimes. Naham. Tandis que le contraire du visage souriant est le visage renfrogné. Donc quand tu vois un visage renfrogné, gronchon, t'as pas envie de l'aimer et t'as pas envie de... même s'il a de la science, t'as même pas envie de prendre sa science. Naham. D'ailleurs, dans la parure de l'étudiant, l'explication de la parure de l'étudiant, les savants disent que l'étudiant ou autre, celui qui fait darwa, il doit avoir une apparence, une parure irréprochable. Sourire, un habillement des meilleurs. Il doit vraiment aspirer la sérénité, la sagesse, la douceur, l'amour. Il doit sentir tout ça. Les gens, quand ils le voient, ils doivent sentir ça. Même dans sa voix, dans sa manière de s'exprimer, d'enseigner, ils doivent ressentir ça tout de suite. Si vous ne ressentez pas ces choses-là, c'est pas normal. Parce que quelqu'un qui prétend et qui se met à un certain niveau, il doit avoir un minimum de pratique dans ce qu'il prétend et enseigne, etc. Taïb ? Parce que si ce que tu enseignes, ça n'a pas d'effet sur toi, alors fais une pause et recommence tout et jusqu'à ce que ça ait un effet sur toi. Pour que tu arrives à un niveau, à un point où les gens, ça se reflète sur toi, les gens le ressentent. Les gens le ressentent. Naham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en effet, ne sous-estime pas la moindre bonne action, pas même de recevoir ton frère dans la foi avec un visage souriant. Vous savez, ce hadith, analysez-le bien, vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre des choses. Vous savez, pour le musulman, c'est clair, quand tu souris à un musulman, il te répond normalement par un sourire. Ça, c'est clair, ça a été testé. La plupart, hein, il y en a, c'est des gronchons. C'est des gronchons. Mais sinon, pour la plupart, ça ouvre quelque chose quand tu souris. Mais vous savez même que si tu souris à un mécréant, eh ben, dans la plupart des cas, le mécréant va te sourire. Et ça va ouvrir des portes. Pour la darwa, ça va ouvrir des portes. Alors, il est vrai que pour la plupart des élèves, vous êtes en France. Pour la plupart des élèves, vous vous situez en France. En France, c'est un peu délicat de dire si tu souris à un mécréant, il va te sourire. Ça fait à peu près 5 ans qu'on a quitté notre dernier passage en France. Donc je ne sais pas comment ça a évolué en France, etc. Mais wallahu a'lam, je pense que la majorité, si tu leur souris, vont dire il est bizarre. Déjà, il y a énormément de musulmans, quand tu leur souris, ils vont dire qu'est-ce qu'ils cherchent, il est bizarre, celui-là. Wallahu al-musta'an. Mais C'était surtout pour vous dire que au niveau des réactions, au niveau réactionnel, normalement, on a testé, hein, quand tu souris, la personne, elle te sourit et ça ouvre des portes. Non, normalement. Alors, parce que nous, on est dans un autre pays, on a testé, et la plupart, on est beaucoup, on est dans une ville, il y a énormément de musulmans. Quand tu leur souris, ils te sourient. Pas tous, il y a des gronchons, mais la plupart, quand tu leur souris, ils te sourient. Et même quand tu leur souris, ben, ils finissent par te dire Assalamu alaikum. Subhanallah. Comme quoi, c'est une da'wa. Ils vont pas dire les gens de la sunna, la plus. Ils vont pas dire ils sont tous des gronchons comme ça. Hein, parce que la plupart, tu le regardes pour lui sourire, il tourne la tête. Wallahul musta'an. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a beaucoup insisté dans la première classe, on le fera ici dans votre deuxième classe également, pour les anciens. On a beaucoup insisté à l'institut, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Faut se corriger. Faut se corriger, faut être vivant, sourire. Ton cœur, il vit. Tu souris, t'es assalamu alaikum. Tu vas dans des mosquées des gens de la sunna. Alors, c'est pas du dénigrement. Hein. On a expliqué qu'on avait une règle à l'institut, on se sert des erreurs des autres pour pas commettre les mêmes. Tu vas dans des instituts, dans des mosquées des gens de la sunna. C'est comme si tu étais un moins que rien. On te fait fuir. Non, c'est pas ça l'islam. Ça, c'est pas l'islam. Vous pouvez parler de sunna, vous pouvez parler de ce que vous voulez. L'islam, c'est pas ça. Et les musulmans le savent. C'est pour ça qu'ils se fuient. Ils fuient de vous. Vous en général, hein. C'est pas vous, vous. Hein. C'est pour ça que les musulmans, ils se sauvent. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que l'islam, c'est pas ça. C'est une religion d'amour, de paix, de douceur, de sourire. Alors regardez, on va aller plus loin, on va vous donner une faïda ici, on va aller encore plus loin, pour vous dire qu'en réalité, on n'a rien compris. Il y a énormément de gens, tu peux dire, ah mais ils n'ont rien compris en réalité, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Une personne peut dire, c'est légitime, hein, ça restera légitime. Une personne peut dire oui, mais comment on pourrait sourire aux mécréants alors que on est dans un pays de mécréants, on ne doit pas leur passer le salam en premier. Tout ce que vous savez, on doit changer de trottoir quand on voit des juifs ou on change de trottoir, etc. Vous savez, tout ce genre de choses. Alors, les savants ont expliqué, et c'est là que vous allez voir, on a tout faux. Hein. Beaucoup de musulmans, ils ont tout faux. Les savants ont expliqué qu'il y a une différence concernant le contexte dans la dawa et le contexte avec des mécréants qui sont hostiles, qui normalement t'as rien à faire dans leur pays en réalité. Mais les savants ont expliqué qu'il y avait une différence. Il me semble que c'est Cheikh Al-Uthaymeen, toujours, hein, Cheikh Al-Uthaymeen, qui dit que dans un pays de mécréance, tu peux pas pratiquer, tu dois pas pratiquer, je leur passe pas le salam ou le bonjour en premier. Tu pratiques pas ça. Parce que dans les pays de mécréance, tu es en mode darwa. Tu dois faire la darwa. Et dans la darwa, il est permis que tu leur passes le salam en premier. Le bonjour ou ce que vous voulez. En premier, pour la darwa. Donc il n'y a pas de mal pour la darwa à sourire à un mécréant, à aller visiter un mécréant à l'hôpital, à secourir un mécréant, à aider un mécréant. C'est pour la darwa. Nous, on n'a rien compris. Dernièrement, c'était ici en Angleterre, on m'avait posé la question. Il y avait un frère qui fait de la livraison et il va livrer chez des femmes, des fois des mécréants ou quoi, et il dit. Qu'Allah la maudisse, celle-là, ou des choses comme ça. Subhanallah, ça pourrait être la mère de ton frère que tu fréquentes à la mosquée, ça pourrait être la cousine de. Et d'un côté, alors, toi, tu fais de darwa à ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ou je ne sais qui, tu fais de darwa, il y a des frères comme ça, ils arrivent, maudit soit-elle, maudit soit-il, maudit, sale mécréant, Wallah al-musta'an. On a tout compris de la religion. On a tout compris de notre religion. Wallahu al-musta'an. Voilà pourquoi, il me semble que c'était dans un rappel hier ou avant-hier, on vous disait revenez au grand savant. Et si vous n'êtes pas capable de revenir directement au grand savant, prenez la science des étudiants qui, eux, ils vous, comment dirais-je, ils vous mettent en situation comme si vous étiez en train de prendre chez les grands savants. Parce qu'ils ont pris et ils prennent toujours chez les grands savants, donc ils vous transmettent directement des grands savants. Moi, je connais, par exemple, nous, on connaît que le contenu des grands savants. Ça veut dire, quand on vous parle, c'est comme si c'était les grands savants qui vous parlent. Nous, on est traducteurs, on est transmetteurs, on vous transmet. Et nous, on ne va pas prendre chez l'épicier, on ne connaît pas tout ça. On connaît que les grands savants. Que ce soit les ouvrages, les audios, les cours, les instituts. Donc, vous êtes tranquille, Inch'Allah. Et vous avez vu, ça fait toute la différence. Vous avez vu ce qu'on vous transmet, vous avez vu les ouvrages. On est avec Cheikh Al-Uthaymeen, là. Tantôt on est avec Cheikh Al-Uthaymeen, tantôt on est avec Cheikh Al-Fawzan, tantôt on est avec Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, voilà. Mais quand vous avez des gens, on va vous dire c'est quoi le malaise dans le comportement. Vous avez des gens, en réalité, ils ne prennent pas des grands savants. Ils prennent du frère de la mosquée, de l'imam de la mosquée, de un tel qui est connu, de un tel directeur de l'institut de je ne sais quoi, c'est ça. Ils ne prennent pas chez les grands savants en réalité. Alors leur comportement, ça ne sera pas le comportement des grands savants. Leur comportement, ça ne sera pas leur manhaj, la voie qu'ils suivent, le chemin qu'ils suivent, ça ne sera pas celui des grands savants. On le voit aujourd'hui. Le grand malaise, on le voit aujourd'hui. Ils ne prennent pas des grands savants. Malheureusement, ils sont trompés. Alors, il y a beaucoup de jeunes, ils croient qu'ils sont en train de prendre des grands savants. Pourquoi? Parce que les références chez qui ils vont prendre la copier et coller la religion, ces références-là leur font croire qu'ils prennent des grands savants. Shir un tel, shir un tel, shir un tel. Mais ils se font tromper. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et là, vous avez fait un bond de 20 ans... Vous avez 20 ans d'avance sur les autres. Vous savez, un des privilèges qu'on essaye de vous faire goûter à l'Institut de Tawhid, c'est d'avoir énormément d'avance sur les autres. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps. Nous, on va vous faire gagner 20 ans d'avance. Allez, hop, ça y est, tu viens, t'arrives. Oh, je viens de connaître la religion, tu viens de te convertir. Oh, par la grâce d'Allah, tu as connu la voie des salafs. Tout de suite, c'est une grande ni'ma. Si tu vas directement être dirigé chez des gens comme ça qui prennent que des grands savants, mais pour de vrai, pas pour de faux, tu as gagné 20 ans. Parce qu'il y en a, dès le début, ils vont faire connaissance avec des gens qui vont leur faire croire c'est ça la voie des salafs, t'inquiète pas, Cheikh un tel il a dit, tout ça. Ils vont perdre 20 ans, ils vont se réveiller dans 20 ans. Purée, tout le temps que j'ai perdu, il y en a, ils vont s'égarer à cause de ça. Remercie Allah. Inch'Allah ta'ala, on vous fait gagner des années et des années d'expérience, de science, de... Wallah, c'est une grande ni'ma. Alors, dans la classe des anciens, il y a énormément d'élèves qui l'ont reconnu. On est dans une ni'ma. Maintenant, à vous également. Alors, on n'est pas là pour les compliments, vous inquiétez pas. C'est dans votre cœur, pour vous, hein, c'est pas pour moi. C'est pour vous, dans votre cœur. Reconnaissez cette ni'ma, remerciez Allah, et Allah, il va vous en donner plus. C'est pas un souci, nous, qu'on soit au courant, pas au courant. C'est pas le problème. Taïb, nous, comme on vous a dit, on est juste un intermédiaire. Alors, écoutez bien. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, nous dit donc le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne sous-estime pas la moindre bonne action, pas même de recevoir ton frère dans la foi avec un visage souriant. » Subhanallah. Il y a un grand pourcentage du comportement compris dans ce hadith, hein, sachez-le. Je ne serais pas capable de vous dire, mais par expérience dans l'ilm et l'expérience, je sais que, comme le disent certains savants, ce hadith c'est un tiers de la patience, c'est un tiers de la religion, le mariage c'est la moitié de la religion. Moi, je dirais avec mon expérience, wallahu a'lam, mais je ne pourrais pas vous dire combien de pourcentage. Mais je vous dirais que ce hadith, il a un pourcentage où il est compris le comportement. Comme si on disait, c'est la moitié du comportement, ce hadith. Alors, je ne dis pas que c'est la moitié, hein. Mais ce hadith, c'est pour vous faire vraiment sensibiliser sur comme quoi ce hadith, il est très important concernant le comportement. Ce n'est pas pour rien que Cheikh Al-Uthaymeen nous mentionne ce hadith. Alors, le sourire au visage introduit la joie dans le cœur. On a parlé du cœur hier, hein. Vous vous rendez compte que le sourire, il a un rôle par rapport au cœur. Désolé, c'est pas dans votre cours qu'on a parlé du cœur. Donc, dans un prochain cours de comportement, on vous fera écouter hier. On a fait un rappel sur le cœur. Sur le cœur. Et on a une faïda en plus, ici, sur l'importance du cœur. C'est que, regardez, le sourire, il a un impact sur le cœur. Subhanallah. Allahu Akbar. Sur le cœur de celui qui se trouve en face de toi, attire de la sympathie et de l'amour et engendre une dilatation du cœur des deux côtés. Wallahi, c'est ajib. Le sourire, il a un impact sur ton cœur. Alors c'est pour ça qu'on vous dit souris même à un mécréant pour la da'wa et peut-être tu vas toucher son cœur. Les musulmans, ils sont méchants. Les musulmans, c'est des terroristes. Les musulmans, ils tuent les autres. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Radicalistes, haineux, les musulmans, les musulmans. Et moi, en tant que mécréant, j'ai rencontré un musulman, il m'a souri. Ça vient casser toute la da'wa des ennemis de l'islam. Naham. Si tu gardes un visage renfrogné, les gens te fuiront et ne désireront pas t'accompagner ou te parler. Il se peut même que tu souffres à cause de cet effet d'hypertension artérielle, qui est une grave maladie. Être détendu et souriant sont les remèdes les plus efficaces contre l'hypertension artérielle. Allahu Akbar. Pas besoin de médicaments. Le médicament, il te l'a donné, Cheikh Al-Uthaymeen, ici. C'est pourquoi, d'ailleurs, les médecins conseillent à celui qui souffre d'éviter ce qui l'énerve et le met en colère, car cela exacerbe sa maladie. Le fait d'être détendu et souriant combat cette maladie. Subhanallah. Vous voyez, le bon comportement, c'est une guérison. Allahu Akbar. C'est une guérison, le bon comportement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le bon comportement, c'est une guérison, le sourire. Allahu Akbar. De cette manière, la personne garde une bonne humeur et les gens l'aiment. Voici donc trois principes qui constituent trois principes. Hein. Trois principes, ce sont des fondements, ce qu'on a cité, qui constituent le pivot de la noblesse du caractère dans le rapport avec les gens. Allahu Akbar. Ne passez pas à côté, apprenez-les par cœur et mettez-les en pratique. On nous a déjà posé la question, il me semble, c'est dans cette classe. On nous a déjà posé la question, comment mettre en pratique le bon comportement avec les autres, etc. Là, vous avez une réponse. Apprends ces trois principes et mets-les en pratique. Alors, ces trois principes, ne pas faire du mal, être généreux et avoir un visage souriant. Apprends-les, mets-les en pratique. Naham. N'attends pas, ne sois pas distrait, ne sois pas insouciant, ne sois pas préoccupé par autre chose. Apprends ces trois principes et mets-les en pratique. Voici donc les trois principes qui constituent le pivot de la noblesse du caractère dans le rapport avec les gens. Ce qu'il faut connaître aussi en matière de noblesse du caractère, c'est le fait d'être de bonne compagnie. Cela signifie qu'il faut tenir bonne compagnie aux gens qu'on fréquente, comme les amis, les proches et la famille. On ne doit pas les ennuyer, ni leur montrer, pardon, qu'on est ennuyé par eux. On doit introduire la joie dans leur cœur de la mesure du possible et selon les normes de la charia. Je dis cela parce que certaines personnes ne sont satisfaites que lorsqu'elles sont dans une ambiance pécheresse. Ça veut dire là où on fait des péchés, des désobéissances. Qu'Allah nous en préserve. Amin. On ne doit pas les approuver dans les choses qui constituent une infraction à la religion. Par exemple, comme la question que nous a posée Cheikh Bilal, on ne peut pas approuver des gens qui disent chacun fait ce qu'il veut. Non. Introduire la joie dans le cœur de ceux qui sont souvent en contact avec toi, comme ta famille, tes amis et tes proches, est signe de noblesse du caractère. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour les femmes. Et je suis le meilleur d'entre vous pour mes frères. Beaucoup de gens se comportent convenablement avec les gens, mais malheureusement ne se comportent pas bien avec leurs épouses. Cela constitue une erreur et un inversement des réalités. Comment un homme qui traite bien les lointains traite paradoxalement mal ses proches? Ce sont les proches qui méritent le plus qu'on leur tienne bonne compagnie. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne qui a le plus de droit à ma bienveillante compagnie? Il répondit, ta maman. Et qui ensuite demanda l'homme? Ta maman. Et qui ensuite demanda l'homme? Ta maman. À trois reprises. Et qui ensuite, la quatrième reprise, ensuite ton père, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer cela, je dis que le fait de tenir bonne compagnie à sa famille, ses amis et ses proches est un signe de haute moralité, le bon comportement qui mène au paradis. Ce qu'il nous incombe à ce titre, c'est de profiter de la présence des jeunes dans ces colonies de vacances d'été pour les initier à la haute moralité, le bon comportement. Ainsi ferons-nous de ces colonies des centres d'enseignement et d'éducation, car la science sans l'éducation est plus nuisible qu'utile. Écoutez bien, barakallahu fikum, on est obligé de faire une parenthèse ici sur un point extrêmement, extrêmement important. C'est d'ailleurs une des causes qui nous a coûté cher dans notre jama'a. Écoutez. Ainsi, ferons-nous de ces colonies des centres d'enseignement et d'éducation, car la science sans l'éducation est plus nuisible qu'utile. Alors, la science sans le bon comportement, c'est plus nuisible que ce sera utile. En gros, la science sans le comportement, c'est nuisible. Avec l'éducation, la science aboutit au but escompté. Allah, le Très-Haut, a dit en effet, « Il n'appartient pas à un être humain à qui Allah a accordé le livre, la sagesse et la prophétie de dire ensuite aux gens, « Soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. » Mais il devra leur dire, « Soyez plutôt des maîtres dans la voie du Seigneur, Rabbaniyin, de par ce que vous enseignez du livre et de par ce que vous étudiez. » Tel est le secret de la science. Il consiste en ce que l'homme soit Rabbani, c'est-à-dire qu'il éduque les serviteurs d'Allah selon la charia d'Allah. Ça signifie ici, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, a beaucoup insisté sur cela, Cheikh Al-Uthaymin a beaucoup insisté sur le fait que nous voulons des prêcheurs éducateurs et pas autre chose. Nous voulons aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Ce sont des prêcheurs éducateurs, pas des prêcheurs tout court. Et sachez que c'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que tu es un prêcheur éducateur ou tu es un prêcheur tout court? Naham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un même temps prêcheur et éducateur. Naham. Nous espérons que les responsables de ces colonies de vacances en feront un domaine de rivalité en matière de noblesse des vertus, notamment le noble caractère, le bon comportement. Celui-ci peut être une disposition naturelle et peut être acquis, comme nous l'avons déjà mentionné, ou bien naturellement, ou bien par prédisposition, comme vous le savez, le comportement, on peut l'acquérir. Ou bien c'est Allah Ta'ala qui nous l'a donné à l'initial, ou bien il faudra aller le chercher. Donc, Inch'Allah au Ta'ala, on va se contenter aujourd'hui de cela pour notre cours. On va répondre aux questions de nos étudiants. Donc, attention à ne pas négliger l'importance du bon comportement envers les autres. On a eu tendance à négliger dans la Jamara, à énormément négliger cela, et ça nous a conduit à l'égarement. Ça nous a conduit à la division, à la haine entre les autres, au mépris, etc., etc. C'est une punition d'Allah. Regardez, on a délaissé le bon comportement envers les autres. Ça nous a conduit à la punition d'Allah. Car au moment où tu seras divisé, et que vous allez vous détester, etc., les uns des autres, vous mépriser, sachez qu'il n'y a aucun doute, hein. C'est dans les textes. Comme le dit Cheikh El Fawzan, c'est la punition d'Allah Ta'ala. Taïb. Alors. Taïb, les questions. Alors. Assalamu alaikum, professeur. J'espère que vous allez bien. J'ai une question. Alhamdulillah, j'espère que tu vas bien aussi. Cheikh Sadio Konaté, tu peux poser ta question, Cheikh. Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah, oustaz, wa alaikum assalam wa rahmatullah, Cheikh Ibrahim. De quelle façon peut-on mettre en garde un frère sur un acte détestable ou haram qu'il s'apprête à faire en privé ou en public? Barakallahu fiikum. Alors, concernant le fait de mettre en garde une personne concernant un acte qu'elle va commettre, qu'elle s'apprête à commettre un acte répréhensible dans la religion, il faut savoir que ça fait partie du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ça fait partie de la da'wa. Comme vous le savez, la da'wa, elle est obligatoire pour tout le monde, mais chacun a son degré de da'wa. D'accord? On le verra avec Cheikh Al-Uthaymeen. On l'a déjà vu avec dans Kitab ul-Ilm, on l'a déjà vu avec les autres élèves. Que la da'wa, c'est obligatoire pour tout le monde, mais c'est chacun est concerné par la da'wa, mais chacun a son niveau. Il y en a, ils vont transmettre un hadith, il y en a, ils vont transmettre un verset avec l'explication, et il y en a, ils vont faire carrément des khutbas. Al-Muhim. Alors, concernant la da'wa, et ici le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, il faut savoir qu'il y a une méthodologie. C'est en fonction du contexte que tu dois analyser de quelle manière tu vas pouvoir intervenir. Nous, ce qu'on conseille, donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une approche justement, subhanallah, de distraction. C'est-à-dire, en quoi consiste l'approche de la distraction? L'approche de la distraction, c'est que tu vas, au lieu de réprimander ton frère ou ta sœur, tu vas la distraire. De quelle manière? Assalamu alaikum, akhi, barakallahu fik, je peux te parler, s'il te plaît. J'aimerais m'entretenir, te parler de quelque chose. Tu vas tout faire pour attirer l'attention de ton frère ou ta sœur. Quand tu auras gagné son attention, maintenant, ce que tu peux faire, c'est lui dire, en utilisant la chose qu'il s'apprête à commettre, ce que tu peux faire, tu fais semblant, c'est pas du mensonge, hein. Tu fais semblant, oui, voilà, moi une fois, j'allais tomber dans ce péché, mais je sais pas, à ton avis, c'est grave de faire tel péché, et est-ce que je peux me repentir, Allah il va me pardonner pour ce péché, parce que j'ai entendu que c'était un péché grave, et tu lui cites ce qu'il s'apprête à faire. En faisant comme si tu n'étais pas au courant ou quoi que ce soit. Tu as cette première technique. Tu as la deuxième technique de la distraction totale. Ça veut dire que tu vas gagner son attention d'une manière ou d'une autre. Tu te débrouilles. Tu essayes de gagner son attention. Tu vas l'attirer et ensuite tu vas lui parler d'Allah, du châtiment de la tombe, de lui faire peur. Lui faire peur. Naham. Donc ça, c'est une technique. Wafik Barakallah, Cheikh Ibrahim. On a Cheikh Sadio. J'aimerais m'engager spécialisé dans la mise en garde et Mashallah. Dans la mise en garde et la réfutation avec sagesse et douceur. Est-ce que vous pouvez me former pour être un bon réfuteur? Pour le bien de la communauté musulmane, employons la méthode des salafs, car les savants nous disent faire la mise et la réfutation contre les prédicateurs corrompus qui sèment les ambiguïtés à la communauté musulmane sans qu'ils s'en rendent compte, était un bon combat, oui c'est vrai, dans le combat, dans le sentier d'Allah, car j'ai vu vos mises en garde, réfutations sur votre chaîne YouTube, cours de tawhid comme Ayman Ter, Boussena, Mounir, et Qassim, elles sont géniales, professeur, qu'Allah vous récompense, barakallahu fik, amin, wafik, barakallah. Dans un premier temps, Cheikh Ibrahim, dans un premier temps, la première approche qui serait bien pour toi, plutôt Cheikh Sadio, bon c'est valable pour tous ceux qui ont ce but, dans un premier temps, c'est de bien suivre les cours à l'institut. De bien suivre les cours à l'institut, ça c'est dans un premier temps. C'est la première approche. Première recommandation pour toi. Et pour les autres également. Ensuite, le deuxième, là, on ne l'a pas encore fait. On ne l'a pas encore mis dans votre programme. Mais là, si tu veux vraiment faire ça, c'est la aqida. Tout de suite, il va falloir que tu rentres dans les cours de aqida. Tout de suite. Dès qu'on va mettre les cours de aqida, parce que dans les cours de aqida, ils peuvent vous le dire, les élèves qui suivent la aqida, dans les anciens, c'est du manhaj. On va faire des livres, usul sunna, on parle des innovateurs, on va faire beaucoup de livres d'enseignement. Là, c'est le manhaj. Et là, tu vas apprendre les répliques, il y a beaucoup de répliques des gens de la sunna, les anciens, les contemporains, etc. Donc la matière de prédilection, si on peut dire ça, ça va être Al-Aqida. Et là, tu vas assimiler le style des anciens, le style des contemporains et le style de ton enseignant également. Donc, tu as tout à gagner. Tu pourras même poser des questions, comment faire une réplique, tout ça. Ça, c'est la matière. Ça s'appelle Al-Aqida. Al-Aqida. Voilà. Wa iyyak, Cheikh Ibrahim. Wa iyyak, Cheikh Ibrahim. J'espère que je n'ai oublié personne dans les questions. J'espère que je n'ai oublié personne. Si vous avez encore des questions, profitez-en avant qu'on mette Je tenais juste à vous dire, en une phrase, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en tant qu'enseignants, étudiants, etc., pour ceux qui ne nous connaissent pas, si vous préférez, concernant les mises en garde ou les répliques ou quoi, je vous assure que ça nous fait pas plaisir. Il y a rien de personnel envers qui que ce soit. Parmi les détracteurs, il y a rien de personnel. On n'est pas dans une guerre ou quoi que ce soit. Mais comme l'a si bien dit notre étudiant, les savants disent que il y a des cas où tu es obligé. C'est une obligation. Tu devras te manifester et voilà. Parce que comme vous l'avez vu, sinon, si on aimait ça et si c'était personnel et si c'était notre spécialité, on aurait fait une chaîne, il n'y aurait que ça. Que ça. Il n'y aurait pas de cours, il n'y aurait pas de... Et nous, ce n'est pas le cas. Donc, on le fait vraiment quand c'est une darura, un cas de nécessité. Par la grâce d'Allah, on a la capacité de le faire. Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà. Quand ils le font, on le fait. Mais vous savez, on a reçu énormément de demandes. Peux-tu faire mise en garde contre un tel, contre un tel, contre un tel, contre un tel? Et on a vu qu'il y avait déjà d'autres qui s'en étaient chargés. Ou alors que c'était très très clair que c'était une perte de temps et c'est pour ça qu'on ne s'est pas manifesté. Donc vous voyez, c'est un devoir, mais faut pas non plus... ça reste un devoir, mais faut pas non plus... ça veut dire qu'il ne faut pas faire que ça. Si quelqu'un il veut spécialiser, se spécialiser c'est bien, mais il faut vraiment apprendre d'abord. Faut vraiment apprendre, c'est pas comme ça. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question, ce matin j'ai vu une sœur prier assise dans le train. Quel est le jugement de cela? Alors, le fait de prier assis, ça va dépendre de la situation de la sœur. Si la sœur, elle est malade, elle n'a pas la possibilité de prier debout. Alors, il lui sera, et on connaît des sœurs, peut-être même dans vos entourages, vous avez des parents, des gens qui ne peuvent pas prier debout. Donc, il faut donner dans un premier temps la bonne pensée, c'est-à-dire on pense du bien et on se dit, ben, je sais que c'est le cas, hein, j'ai pas dit ça dans le sens où on pense du mal. Je sais que les étudiants, quand ils posent une question, c'est pour chercher le jugement. Mais on doit, lors d'un jugement, toujours penser du bien. Même si tu vois une personne prier devant une statue, pense du bien. Peut-être que c'est un musulman, il a même pas vu, il est aveugle. Il n'a pas vu que c'était une statue. Ou alors un musulman, il n'a pas fait attention, il n'a pas vu. Voilà, des fois tu marches, tu penses à autre chose, tu n'as pas vu ce qu'il y a autour. Hein. Oh, je dois prier, je suis en retard, il miskine, il est en sueur, il se dit je vais être en retard, on va rentrer dans le mohrab, je dois prier la hassal. Il saute sur le premier coin qu'il trouve, il jette son tapis et il prie, il n'a pas vu qu'il y a une statue. Ça se peut. Donc il faut toujours penser du bien. Il se peut que cette sœur, elle est malade ou elle a une excuse qui fait qu'elle ne peut pas prier debout. Première chose. Par contre, si cette personne, elle n'a pas d'excuse légiférée, elle devra pas prier assis. Naham. Si elle a une excuse légiférée comme maladie, elle va dépasser l'heure de la prière, elle a peur que les koufars, si elle prie debout, ils vont la scruter. En train de prier debout, ils vont la regarder, tout ça. Wallahu a'lam. Il y a des cas où on va dire que c'est une excuse légiférée. Et il y a des cas où on dira que ce n'est pas une excuse légiférée. Ala kulli hal, si vous arrivez à avoir une entrée, une approche pour pouvoir discuter gentiment, tranquillement avec cette sœur, il n'y a rien, y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Naham. Taïb. Donc, Inch'Allah Ta'ala, apparemment, il n'y a plus de questions. Hein. Nous avons répondu normalement. Fik Barakallah, Cheikh Sadio. Fik Barakallah. Normalement, on a répondu à toutes les questions. J'espère qu'on n'a oublié personne. Des fois, ça nous arrive, hein, faut pas nous en vouloir. Wafikum Barakallah. Wafikum Barakallah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, pour ce matin. Ce cours touche à sa fin. Barakallahu fikum pour votre présence et votre participation. Hayyakumullah. N'oubliez pas, s'il le faut, réécoutez l'introduction qu'on a fait ce matin. Ne dites pas, ne soyez pas, ne soyons, c'est valable pour nous en premier, hein, ne soyons pas insouciants, ne soyons pas distraits. Au point de dire ça n'arrive qu'aux autres. Wallah, ça c'est un stratagème du shaitan qui dit mais non, ça arrive qu'aux autres. Il y a une sœur, elle est partie, elle est morte. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a un frère, il est parti, il est mort. Ouah, ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez cette notion que shaitan il te met dans ton cœur. Ouah, ça arrive qu'aux autres. Moi j'ai encore du temps. Wallah, tu sais pas. Tu sais pas quand est-ce que tu vas te retrouver dans la tombe. Et wallah, normalement. Et ça, c'est une caractéristique de nos grands savants, de nos prédécesseurs, de nos salafs, que ils se voyaient tellement bas que jamais ils se seraient vus. Ils étaient tellement modestes qu'ils se voyaient dans une léthargie, une insouciance totale. Alors si eux, les salafs, ils se voyaient dans une léthargie, une insouciance totale, mais qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah.